souvenir de Roger Servageant, qui fut astronome à l'observatoire de Meudon depuis janvier 1938. Dans les premiers jours de janvier 1938, un jeune homme de 24 ans descendait de la navette Invalide Meudon et mettait pour la première fois le pied sur le quai de la petite gare de Meudon-Val-Fleury. Il bruinait. Le quai mouillé était désert. En haut de l'escalier de sortie, l'employé de la SNCF attendait, morne et résigné, de pouvoir, ayant collecté les billets des deux ou trois voyageurs, se réfugier au chaud de son bureau. Quelques pas, quelques marches gravies. Pendant son billet, le jeune homme eut une question timide. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer le chemin de l'observatoire ?» L'homme eut un geste vague, désignant une direction sur sa droite. Vous prenez la rue Banès et vous montez toujours. Vous y arrivez forcément. Meudon était à l'époque une coquette petite ville de banlieue où quelques immeubles de 5 ou 6 étages alternaient avec des pavillons plus anciens. Boutiques ou jardinets bordaient les trottoirs. En haut de la rue Banès, une ferme laissait voir par la porte ouverte de sa cour un archaïque tas de fumier. Après une dizaine de minutes de marche, Dieu que des jambes de 24 ans sont légères, le jeune homme débouchait sur une place limitée sur un côté par un long bâtiment bas de style Louis XIV. Perpendiculairement, une entrée monumentale flanquée de deux petits pavillons et de deux douves asséchées donnait sur une belle et grande terrasse. En vis-à-vis, descendait une majestueuse avenue bordée d'arbres magnifiques et dont l'extrémité se perdait dans la bruine et la pluie. Deux tilleuls centenaires encadraient l'entrée comme des symboles de calme et de sérénité. Un drapeau délavé surmontait un panneau coiffant la grille d'entrée et où une inscription déjà vieillie indiquait qu'ici commençait le domaine de l'Observatoire national d'astrophysique de Meudon. Ce jeune homme, qui me ressemblait comme un frère, s'arrêta un instant, regardant ce décor de grandeur calme et désuète. Et je me souviens m'être dit, Dieu qu'il doit faire bon et tout, de travailler et de vivre ici. Dans le pavillon de droite, deux gardes passaient le temps comme lièvres en leur gîte. Je m'adressai au plus grand, sec, mince et sanglé, et lui exprimai le désir de voir M. d'Azan-Lujat avec qui j'avais rendez-vous. Il décrocha un récepteur téléphonique, et je le vis manier fiche de connexion et manivelle d'appel sur un vaste tableau que je regardais avec curiosité, car il me semblait déjà digne d'un musée du téléphone. Deuxième cour, la porte centrale. Il m'indiquait du geste de prendre à droite et de m'engager sous un porche ouvrant effectivement sur une cour. Deux énormes balustres Louis XIII encadraient ce porche. De chaque côté, deux vieux bancs de pierre étaient surmontés comme par des dômes, d'une végétation de rocailles incrustée dans les vieilles pierres. Je pénétrai dans la première cour, petite et carrée. À part deux portes donnant sur des escaliers passablement délabrés, les murs étaient occupés par de vastes portes de bois semblant des portes de remise ou d'écurie. Je remarquai machinalement que le sol, semblable à celui de la place et de la petite avenue d'entrée, était constitué de gros pavés ronds et irréguliers. Et il me sembla entendre le bruit de ferraille et des carrosses pénétrant en ces lieux. La deuxième cour, plus vaste, conservait le même style architectural. Bâtiment d'un étage, couvert d'ardoises où se détachaient les fenêtres des mansardes. Dans un coin de la cour, un tombereau, attelé d'un cheval, occupait placidement à brouter quelques touffes d'herbe poussant entre les pavés du roi. L'aspect des baies était le même que dans la première cour, vaste double porte de bois pleine, grande baie vitrée, menuiserie et huisserie recouvertes d'une peinture grise, écaillée et hors d'âge. Je frappai à la porte centrale et sur ce qui me sembla un vague encouragement, j'entrai. Je me trouvai dans une vaste pièce qui me parut immense et qui devait mesurer 10 à 12 mètres de large, et 5 à 6 mètres de hauteur sous plafond. L'élément principal et central en était un énorme poêle cylindrique, certainement efficace car il faisait bon chaud. De grosses poutres de bois barraient les parties hautes de la pièce. De grandes baies vitrées l'éclairaient somme toute suffisamment, malgré le douteux état de propreté des carreaux. Ce qu'on voyait des murs était recouvert d'une peinture de teinte indéfinissable, probablement beige à l'origine. La plus grande partie en était d'ailleurs occupée par de grandes armoires de chêne vitrées, dont les rayonnages étaient meublés par des piles de registres, de livres et par un ahurissant fouillis de petites lunettes, de prismes et d'appareils bizarres dont le bel éclat de laiton avait doucement disparu sous une vénérable couche de poussière. Une grande partie de la pièce était occupée par deux énormes fers en double T, constituant un banc d'optique assez rudimentaire, et meublé par un jeu de condenseurs et de supports fixés sur de primitives mais solides montures de chaîne. À l'extrémité du banc se trouvait une espèce de cabine constituée par un bâti de lattes de bois et censée être rendue obscure par des rideaux qui devaient avoir été d'un très joli verre 25 ans auparavant. Un large et vénérable évier occupait un angle de la pièce. L'eau coulait dans un vieux bac de zinc oxydé. Je devais apprendre plus tard que là se lavait la moisson quotidienne de clichés du soleil. Quatre ou cinq bureaux de chêne placés près des fenêtres complétaient l'ameublement de la pièce. Un homme en blouse blanche, dont un pan déchiré pendait sur les jambes, déambulait à travers la pièce, les mains croisées derrière le dos. Il avait l'air de réfléchir, et mon entrée sembla lui apparaître comme une incongruité anormale et gênante. À ma droite, une grande femme mince, assise à un bureau, couvrait un registre de chiffres. En face de moi, assis à un autre bureau, un homme, je dirais un monsieur, ajusta une paire de lorgnons, me jeta un rapide coup d'œil et me fit signe de le rejoindre. À cette époque, dans les milieux de la Société astronomique de France que je fréquentais, Lucien d'Azambujar était pratiquement identifié à l'observatoire de Meudon. Il n'était pas directeur de l'observatoire, mais en faisait fonction. Le titre d'ailleurs n'existait plus depuis quelques années, l'observatoire étant devenu la section d'astrophysique de l'observatoire de Paris. Plus que ses fonctions de directeur, c'était plutôt sa carrière entièrement passée à Meudon qui était la cause de cette assimilation. Entré au début du siècle à 16 ans à l'observatoire, il avait avec Henri Deslandres, le directeur de l'époque, monté et mis au point le spectrohéliographe, instrument de base des observations solaires. Il n'avait depuis jamais cessé d'observer le Soleil et en était devenu un des premiers spécialistes mondiaux. De plus, quoique Meudon ne fût pas uniquement consacré à l'étude du Soleil, c'était là les spécialités de ses deux premiers directeurs, Janssen et Deslandres. Et dans les milieux astronomiques de l'époque, qui disait Meudon, pensait immédiatement Soleil. La prise de contact fut cordiale. Dazan, appelons-le ainsi puisque tout le monde l'appelait ainsi, était à la recherche d'un employé dessinant bien et s'intéressant à son travail astronomique. Je lui avais été recommandé par messieurs Camus et Lancement, organisateurs de la section d'astronomie du Palais de la Découverte. Il me demanda bien entendu de le renseigner sur mes activités passées. Rapportez brièvement ce que je lui dis est sûrement la façon la plus simple de me présenter. Je n'avais guère eu d'autre choix que de gagner assez rapidement que possible ma vie. Et quelques années passées dans une école professionnelle m'avaient permis de travailler comme commis d'architecte dans des maisons s'occupant principalement d'installations et de décorations. Par ailleurs, j'étais, sur l'instigation de mon vieil instituteur, Georges Fournier, membre depuis l'âge de 12 ans de la Société astronomique de France. C'était là mon plaisir. En 1936, passablement écœuré par les difficultés économiques qui touchaient ma profession, j'avais accepté de réaliser pour M. Camus et Lancement un certain nombre de panneaux pour la future section d'astronomie du Palais de la Découverte. Pour la plupart, ces panneaux représentaient des dessins colorés de planètes réalisés en collaboration avec leurs auteurs, Fournier, Antoniadi, Danjon, Guido de Lille. J'avais dans l'occasion été la main qui représente ce que d'autres yeux avaient vu. J'avais aussi exécuté les énormes globes qui pendent encore dans la salle des planètes du palais. Ce fut d'ailleurs mon premier contact avec l'Observatoire de Paris. Ils furent peints dans la salle du Conseil et avec son directeur, Ernest Esclangon. À l'inauguration de l'exposition de 37 et donc du Palais de la Découverte, Camus et Lancement me demandèrent d'assurer le rôle de démonstrateur dans leur section. Cela me faisait un peu peur. Mais je connaissais et pour cause bien la section, cela me plaisait, et j'y restais jusqu'à la fermeture qui devait être définitive, mais s'avéra provisoire en fin de l'année 37. C'est à cette époque que Camus et Lancement parlèrent de moi à Dazan. Il m'interrogea aussi sur ce qu'avaient pu être mes études de physique et de mathématiques. Cela était assez curieux. Je n'avais, comme je l'ai dit, pas suivi d'études normales, mais j'étais passionné de sciences et particulièrement de maths, et mon Dieu, j'avais potassé pour mon simple et unique plaisir, et comme l'ont fait des mots croisés, les cours de mathématiques spéciales. Les problèmes que je résolvais vite ne m'intéressaient guère, mais je m'acharnais jusqu'au succès sur ceux qui me causaient des difficultés. Je compris qu'ils pensaient, pas de diplôme, mais du goût pour les sciences. Je compris par la suite que cela ne lui avait sans doute pas paru rédhibitoire, puisque c'était son cas, celui d'une autre notoriété de Meudon, Fernand Baldé, celui du professeur Croze, celui du professeur Henri Chrétien. Il me proposa donc d'assurer ce petit poste où la tâche essentielle était un dépouillement dessiné des clichés quotidiens du soleil. Il me fit miroiter la possibilité d'apprendre à utiliser les appareils de l'observatoire et peut-être d'y faire une carrière, sous condition, bien sûr, de franchir les étapes normales, baccalauréat, licence sciences, doctorat de physique ou de mathématiques. À 24 ans, on a beaucoup de courage et la vie devant soi. J'acceptai et nous convînmes que je prendrai mon service le lundi suivant. Mes deux ou trois premiers jours de présence furent occupés à parfaire quelque peu mes connaissances sur le soleil. Madame d'Azambuja, la grande femme que j'avais vue lors de ma première visite, me montra les séries de clichés quotidiens, me faisant remarquer tel ou tel détail. Après quelques explications sur le mode d'emploi de l'appareil, je m'installai dans la petite cabine obscure qui terminait le banc d'optique, qui m'avait tellement frappé à ma première visite. C'était à l'aide de cet appareil que s'effectuaient les dessins des filaments et plages faculaires à partir de clichés. Je devais passer un nombre incalculable d'heures dans cet endroit passablement morne. Le but final de ces dessins était l'établissement des cartes synoptiques mensuelles de la chromosphère du Soleil où figuraient les principaux phénomènes, filaments, plages faculaires, taches. Dazan jusqu'ici s'était chargé de leur confection. Au bout de quelques jours, je fis un essai d'établissement d'une carte qui lui donna bon espoir de se libérer bientôt sur moi de cette tâche. Entre-temps, Madame d'Azambuja avait profité d'une après-midi de beau temps pour me faire visiter l'observatoire et les divers instruments. J'avais aussi fait connaissance avec les quelques personnes, membres du personnel scientifique, garçons de laboratoire, mécaniciens, gardes, dont l'ensemble formait une faune assez particulière que nous nommions les Meudonnais. Madame d'Azambuja, ex-mademoiselle Roumains, était entrée à l'observatoire dans les années 26. Elle était à l'époque l'assistante de Lucien d'Azambuja et l'avait épousée quelques années plus tard. Formée à son école, elle apportait à son travail le même soin méticuleux. Comme lui, elle considérait la prise quotidienne des clichés du soleil comme la tâche primordiale et sacrée. Ces clichés, dans toute la mesure du possible, quatre spectroheliogrammes différents par jour, s'accumulaient dans des coffrets de bois et constituaient peu à peu cette collection unique de clichés solaires que les spécialistes s'accordent à considérer comme la plus belle et la plus complète du monde. La prise de ces clichés était assurée par roulement par les trois ou quatre observateurs qualifiés, le service pour les jours de congé étant également réparti par roulement. Il y avait à ce propos une expression typiquement meudonnaise. Être de soleil signifiait qu'on était chargé pour la journée de ce travail d'observation et impliquait que jusqu'au coucher du soleil, on guetterait les moindres éclaircies, tant que l'on aurait pu obtenir les quatre clichés sans défaut. Henri Grenat, l'homme à la blouse déchirée, était sous un aspect bourru et même caustique, une des personnalités les plus sympathiques de l'Observatoire. Ancien polytechnicien, profondément intelligent, il n'aimait guère expliciter ce qu'il pensait. Il avait toujours un peu l'air de croire qu'il était inutile de perdre son temps avec qui ne comprenait pas tout de suite. Il avait un humour à froid quelquefois redoutable, mais la plupart du temps bon enfant. C'est lui qui commença un jour une conférence à la Société astronomique en déposant une énorme pile de bouquins sur l'estrade avec cette entrée en matière. Pour faire cette conférence, il m'a fallu absorber 20 kg de compte-rendu. Il avait un certain nombre de proverbes qu'il aimait à sortir. La somme des opinions est toujours nulle. La loi de physique la mieux vérifiée est celle de l'homme maximum. Je ne l'ai jamais vu refuser un service. Qu'il s'agisse de mettre son expérience au service de quiconque, de retrouver quelque appareil dont on ne savait plus très bien où il se trouvait, ou de dépanner quelques malheureux séchant sur une question de maths ou de physique. De temps en temps, dans notre grand labo, entraient deux astronomes dont le gîte normal était la grande salle symétrique de la nôtre de l'autre côté de la cour. Elle était encore bien plus étrange que notre labo, car beaucoup plus longue, elle était encore bordée dans le fond d'une série de stalles à chevaux datant du Second Empire. Je m'aperçois ce disant qu'il me sera difficile d'éviter un petit historique du domaine de Meudon. Cela me paraît d'ailleurs indispensable pour recréer cette ambiance assez extraordinaire de science moderne pour l'époque et d'archaïsme chargé d'histoire et de souvenirs. Le plus âgé de nos deux visiteurs occasionnels était Fernand Baldé. Très grand, quoique légèrement bossu, ses cheveux de neige, le regard doux et pétillant. Il avait le même grade que Dazan et à peu près le même âge. Ouvrier typographe dans son enfance, il avait fréquenté le milieu de la SAF, dont il avait été l'un des gnomes, puis engagé par le comte de la Baume-Pluvinel, il avait avec lui pris part à un certain nombre d'expéditions d'éclipses. Entré dans l'astronomie officielle, et il avait, après quelques années, passé à l'Observatoire d'Alger, été nommé à Meudon. C'est là qu'il avait fait sa thèse de doctorat sur les comètes. Il en était devenu le grand spécialiste, et l'instrument qui lui était affecté à Meudon, la table équatoriale, était en grande partie utilisé à cette étude. Il était en outre président de la Société de photographie, et je lui dois d'avoir appris nombre de trucs et de recettes qu'il donnait toujours d'un air un peu pontifiant, mais qui se révélaient à l'usage chargés d'expérience et d'efficacité. Par ailleurs, il abondait dans savoureuses histoires glanées au cours de sa longue carrière, de sa longue fréquentation des milieux astronomiques. Il me faudra bien en raconter quelques-unes. Le second astronome du labo d'en face était Charles Berthaud. D'une dizaine d'années plus âgé que moi, il était stagiaire à l'Observatoire et fut peu de temps après mon arrivée nommé assistant de Fernand Baldé. Il avait collaboré au service du Soleil et à partir de sa nomination d'assistant, se réserva au service de la table équatoriale. Comètes et études de Novae, cette dernière spécialité, étant celle qui devait le mener à sa thèse de doctorat. Lui aussi ne refusait jamais un service, ni de combler les lacunes des jeunes néophytes. Il se passa quelques jours avant que je ne fisse connaissance de l'astronome pour qui mon admiration et mon affection ne devaient cesser de croître, jusqu'à ce que sa fin tragique n'auréole son souvenir d'une espèce de légende qui se perpétue chez tous ceux qui l'ont connu. J'ai nommé Bernard Liot. Donc, quelques jours après mon arrivée, je vis entrer dans le labo un petit homme vif, aux yeux pétillants, que je reconnus pour Liot. J'étais impressionné, car il était pour moi le savant prestigieux. Je ne sais qui dans le labo me présenta, mais je me souviens de la simplicité affectueuse dont il fit preuve, mais aussi qu'il semblait avoir une hâte fébrile de se précipiter dans le grand labo obscur attenant au nôtre. J'avais déjà jeté quelques coups d'œil indiscrets dans cette grande pièce qui était le domaine de Liot. Les rideaux tirés en permanence y faisaient régner une obscurité presque complète. Les armoires et des bureaux meublaient les murs, haussant qu'une très grande table était encombrée d'un invraisemblable fouillis d'appareils électriques et de montages optiques. Lentilles, prismes montés sur des supports à grand renfort de cire molle. Cet étrange décor prenait vie avec la présence d'Olio. Un arc électrique ou une lampe à vapeur de mercure s'allumait, projetant sur l'encombrement des murs de la pièce l'ombre d'une espèce de gnome qui alternait l'œil à un oculaire des périodes de rigoureuse immobilité avec des minutes d'intense agitation marquées souvent par la bruyante chute d'un appareillage trop instable. Cher et génial Lio, c'est dans ce bric-à-brac qu'il avait réalisé les prestigieuses inventions qu'avait déjà sanctionné sa médaille d'or de la Royal Astronomical Society et qui allait lui valoir d'entrer à 40 ans à l'Académie des sciences. Le coronographe surtout avait frappé le public. La possibilité d'observer la mystérieuse couronne en dehors des éclipses. J'avais encore dans les yeux cette vitrine de la librairie de l'Institut d'Optique où figurait côte à côte un gros bouquin démontrant l'impossibilité théorique de photographier la couronne, la quadrature du cercle, quoi. Une splendide photo obtenue au coronographe. J'étais plein d'une admiration quasi fanatique pour lui. J'allais apprendre au cours des années qui allaient suivre ce que pouvait être sa gentillesse, sa droiture et sa bonté. Pour compléter ce portrait du personnel scientifique de l'Observatoire en 1938, je dois encore citer deux physiciens qui, à dire vrai, faisaient un peu bande à part et ne pénétraient que rarement dans notre labo. Le premier du noyer de ce Gonzac était professeur à l'Institut d'Optique. Il avait été nommé physicien adjoint à l'Observatoire et avait au premier étage du bâtiment un laboratoire où il mettait au point des expériences d'optique et où, d'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de pénétrer. Les circonstances de la guerre devaient me permettre de connaître plus tard beaucoup mieux le second, Alexandre Dauvilliers. C'était un Normand, froid et calme, extrêmement original et semblant ne rien apprécier autant que sa tranquillité. Il avait fait d'importants travaux sur le rayonnement X, le rayonnement cosmique, et j'avais entendu de lui des conférences où il exposait ses hypothèses cosmologiques. Quoique ne faisant pas partie du cadre de l'observatoire, il y était hébergé dans le bâtiment situé sur la seconde terrasse que nous appelions Petit Sidérostat. Il avait fait construire à côté de son labo un piège à rayonnement cosmique consistant en une tour dont la paroi externe était une chemise d'eau, ne laissant par conséquent pénétrer que le rayonnement venant du zénith. Au fond de l'espèce de puits ainsi constitué, était installé l'appareillage destiné à décompter le rayonnement cosmique. La tour, qui mesurait 3 ou 4 mètres de diamètre sur 7 à 8 mètres de haut, était entièrement peinte en noir. Dans sa partie supérieure se trouvaient quelques hublots qui, pour une raison que j'ai toujours ignorée, étaient peints en bleu. Nous appelions ce bâtiment bizarre la négresse aux yeux bleus. Le second habitant du petit sidérostat était avec Dauvilliers, son mécanicien Marcel Brobion. Je devais lui aussi bien le connaître par la suite. Et la coexistence de ces deux hommes dans ce bâtiment isolé au fond du parc m'a toujours laissé un peu rêveur. L'un, extraordinairement taciturne, ne parlant que lorsque cela lui semblait indispensable, et c'était souvent pour faire taire par quelques mots désagréables l'important qui troublait le silence, l'autre, heureux de parler de ce qu'il avait fait, les appareils réalisés avec le prince Ringuet au laboratoire de M. De Broglie. Oui, je pense que leur coexistence devait être curieuse, mais je crois qu'ils avaient néanmoins une solide estime et beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Brobion était le mécanicien personnel de Dauvilliers. Il y avait aussi un mécanicien dépendant de l'observatoire nommé Martin et dont l'atelier assez réduit était dans le bâtiment de la deuxième cour des communs, au sud de notre labo. Son atelier était prolongé par la salle d'argenture, entièrement carrelée, et munie de tout un appareillage de cuves et de palans nécessaires à l'argenture des miroirs de télescope ou de cellostats, refaites régulièrement tous les quelques mois par les moyens du beurre, c'est-à-dire à grand renfort d'astronomes mobilisés pour l'occasion. Assisté de deux aides, le jardinier avare avait pour tâche de maintenir vaille que vaille en état le vaste domaine de l'observatoire. Il disposait de peu de moyens et faisait son possible avec un résultat
qui, mon Dieu, n'était pas si mauvais. C'était un homme assez rude, dont l'aspect physique évoquait assez bien le poilu de 14. C'était un paysan, et il s'occupait du domaine comme il se serait occupé d'une ferme. Il avait toujours préféré à un quelconque véhicule à moteur une bonne charrette, et sa cocotte, la jument que j'avais vue le premier jour de mon arrivée, broutait les herbes de la deuxième cour. Cette option avait l'avantage de lui procurer le fumier indispensable à ses plans, et l'herbe des terrasses nourrissait gratuitement le brave bidet. Elle avait aussi le désavantage de procurer aux femmes du personnel logé à l'observatoire quelques frayeurs nocturnes. Lorsque, traversant le parc, la nuit tombée, elles s'entendaient poursuivre d'une galopade effrénée et voyaient surgir de la brume la monstrueuse mais si inoffensive silhouette de cocotte. Elle introduisait aussi un certain humour dans les livraisons de l'observatoire. En 1938, les transports par carrioles à chevaux dans Paris étaient déjà devenus très rares. C'était cependant ainsi que voyageaient nos grands miroirs lorsque, par exemple, ils devaient être transportés au labo d'optique de l'Observatoire de Paris pour quelques examens. Une dernière caractéristique de cocotte. Ancien cheval de cavalerie, elle n'aimait pas l'uniforme Feldgrau. Cela devait poser des problèmes peu d'années plus tard. Ma vie à l'observatoire s'organisait. J'avais dès le début, d'accord avec Dazan, et pour pouvoir préparer mon indispensable baccalauréat, adopté la journée continue de 8 heures. J'arrivais à l'observatoire à 11h30, ayant déjeuné. J'en repartais à 19h30. J'y gagnais la possibilité, me levant à 4 heures, d'une matinée complète d'études de mathématiques ou de physique. Mes soirées étaient occupées à lire l'histoire comme un distrayant roman, ou à rêver quelque peu sur les cartes de géographie. Mes dimanches à annoncer suffisamment d'anglais ou d'allemand pour éviter le fatal zéro pointé. Donc j'avais théoriquement 8 bonnes heures d'affilée de dépouillement de clichés. Mais je suppose qu'on avait quelque peu pitié de ce fastidieux travail, et de nombreuses occasions étaient bonnes pour me permettre d'apprendre peu à peu le maniement des instruments et aussi pour m'initier au savoureux folklore de l'observatoire. Ce fut Madame Dazan qui m'initia au spectroliographe. Après m'avoir précisé ce qu'était l'appareil, que je connaissais plus ou moins vaguement, elle me montra le déroulement successif des opérations de réglage. Tout cela soigneusement noté sur un cahier d'écolier, je fus incité à me lancer seul des occasions favorables. Beau temps, appareil libre et cliché du jour déjà fait par l'observateur de service. Cela demanda quelque temps, et puis quelques clichés perdus. J'avais oublié de faire ceci, ou j'avais oublié de régler cela. Mais un jour, fier comme Artaban, je redescendis avec 4 clichés, qui, examinés sans indulgence par l'aéropage des observateurs confirmés, furent déclarés exempts de fautes dues à l'observateur. Grâce à quoi, il me fut affecté pour commencer une après-midi de service par semaine, pendant laquelle je devais guetter les éclaircies pour éventuellement bondir, muni de la précieuse navette, une petite boîte de bois destinée à redescendre les clichés encore humides après développement, jusqu'au spectrohylographe situé sur la seconde terrasse. Grenat, en sa qualité d'artilleur, avait depuis longtemps proposé de réaliser le canon à projeter l'observateur, mais cette importante invention n'avait guère été prise au sérieux. L'observateur de service avait encore pour tâche, les clichés obtenus, de rédiger l'urcigramme, message savamment codé, qui donnait tous les renseignements sur l'activité solaire du jour et qui, via téléphone et radio, était communiqué à tous ceux qui, dans le monde, se passionnaient pour ce type de renseignements. Ce fut Berthaud qui m'initia à la table équatoriale. Là aussi, le programme de routine était strict. Une partie nécessitait un apprentissage que je qualifierais de purement mécanique. Chargement des châssis, pointage de l'instrument sur l'étoile guide, mise en action de différentes chambres, etc. Le doigté à acquérir résidait dans le suivage, c'est-à-dire dans la manipulation suffisamment fine des rappels en ascension droite ou en déclinaison pour maintenir l'étoile sur la croisée des fils du réticule pendant la durée de la pose, de 10 minutes à 2 heures suivant les circonstances. Encore dans cet apprentissage, n'avais-je pas affaire aux comètes,
puisqu'il n'y en avait pas d'observable.
Baldé, lui, me fit connaître la grande lunette. L'instrument, surtout la nuit, en utilisation, était impressionnant. La masse énorme du tube de 16 mètres, dont l'extrémité se perdait dans la nuit de la coupole, le vide d'une dizaine de mètres en dessous de la plateforme d'observation, les petits escaliers de fer qu'il fallait gravir pour accéder au cercle, tout cela faisait un peu peur. Mais on était payé lorsqu'on recevait dans la pupille toute la lumière d'un astre collectée par près de 70 décimètres carrés de surface optique. La grande lunette, toutefois, ne se révélait qu'à la longue. Il me faudrait attendre plusieurs années, en 1942, pour savoir ce qu'elle pouvait révéler d'un astre roi comme Mars. Ainsi, je devais apprendre combien les grands instruments peuvent être décevants pour ceux qui y jettent un œil épisodiquement. Mais quelle richesse ils peuvent révéler à ceux qui les fréquentent pendant suffisamment de temps pour rencontrer un jour les bonnes images. Grenat, lui, m'apprit quelques tâches de notre routine dont il était chargé. Par exemple, nous disposions d'un poste de radio qui devait dater du général Ferrier. Ce vénérable appareil nous permettait de capter tous les matins les signaux horaires de la tour Eiffel, grâce à quoi nous déterminions tous les jours les CP, c'est-à-dire correction pendule, des horloges astronomiques, tant solaires que sidérales de l'observatoire. Peu à peu, je comprenais la vie de l'observatoire et j'assimilais les tâches qui y étaient réalisées. Cela coupait les longues heures fastidieuses. Mais il y avait encore un autre élément tonifiant pour m'intégrer à cette petite communauté. Il arrivait que l'un ou l'autre, Baldé par exemple, entrât dans notre labo un peu désœuvré. Il commençait à parler de la pluie, du beau temps, puis un mot le lançait sur quelques souvenirs, et pour le jeune que j'étais, il racontait une de ces savoureuses histoires qui constituent l'ossature humaine de notre science. Les bonnes histoires se transmettaient oralement une image des savants qui avaient fait l'observatoire, image plus humaine que celle qu'on pouvait déduire des quelques lignes figurant dans le Larousse. De temps en temps, des photographies jaunies sortaient de quelques dossiers. C'était un groupe de personnages compensés, barbiches, moustaches, chapeaux melons et redingotes, posant à l'occasion de quelques congrès. Et Dazan, qui les avait tous connus, me les désignait, m'indiquant en quelques mots leur personnalité, leur travers ou quelque histoire les concernant. Il arrivait aussi qu'entra dans le labo quelques personnages gravitant plus ou moins dans l'orbite de l'observatoire. Ainsi, un jour, Antoniadi, astronome remarquable à beaucoup de titres. J'avais appris pas mal de choses sur lui par mon vieux maître Georges Fournier, dont il avait été plus ou moins le concurrent de l'observation planétaire. Mince, fluet, doté d'une magnifique chevelure blanche, il représentait absolument l'image qu'on se faisait de l'astronome classique. Dessinateur remarquable, il s'était spécialisé dans l'étude de Mars et avait beaucoup travaillé à la grande lunette, après avoir été, au début de sa carrière, à l'observatoire Flammarion de Juvisy. D'origine grecque, son caractère méridional transparaissait dans une certaine tendance à l'exagération. Fournier m'avait raconté que, parlant de Kénissé, qu'il avait bien connu à Juvisy et qui était caractérisé à la fois par un extraordinaire talent de photographe et par une taille minuscule, il déclarait, suivant son humeur, « Kélissé, c'est un géant !» Pour affirmer aussi péremptoirement le lendemain, « Kélissé, c'est un foutriquet !» Au demeurant le meilleur homme du monde, et qui, véritable rat de bibliothèque, était doté d'une culture encyclopédique. Il y avait aussi, s'ajoutant épisodiquement au personnel de l'observatoire, des stagiaires français ou étrangers qui venaient passer quelques mois pour rédiger quelques diplômes, compléments de licence ou une thèse dirigée par l'un des astronomes. Je devais en voir beaucoup, et la plupart restèrent pour moi de véritables amis. À cette époque, deux stagiaires fréquentèrent l'observatoire. Mon camarade Charles, qui avait été mon collègue au Palais de la Découverte, et un jeune Chinois, fort sympathique, Pampu. Ces stagiaires présentaient bien sûr des qualités fort différentes, et il arrivait que plein de bonne volonté, ils manquassent totalement de sens physique et que leur bataille avec l'appareillage fût homérique. Ainsi s'écoulèrent les années 38 et 39. Le 1er septembre au matin, les énormes titres des journaux me frappèrent de stupeur. Ainsi l'impossible était arrivé, et cette fois personne ne se faisait d'illusions. Devant les mairies, des groupes silencieux contemplaient les affiches coiffées des deux petits drapeaux tricolores. Comme d'habitude, cependant, je gagnais l'observatoire. Tous étaient là, et il fallait décider rapidement comment réorganiser nos petites habitudes. Dazan, Grenat, Berthaud étaient mobilisables dès les premiers jours. Pour moi, une jambe brisée à 18 ans dans un accident de vol à voile m'avait fait réformer. Et bien entendu, le cas de guerre m'amenait à passer devant un nouveau conseil de réforme. En tout cas, pour l'instant, Madame Dazan-Bujat et le brave Pampu et moi restions les trois seuls observateurs disponibles. Et il nous apparaissait à l'évidence qu'il nous fallait tout faire pour que l'observatoire continue de rouler et que surtout ne soit pas interrompue la collection des clichés quotidiens. Madame Dazan, fille d'officier, était résolument optimiste et aurait considéré comme une ânerie que l'on puisse mettre en doute la capacité de l'armée à défendre le territoire. Toutefois, comme chacun, elle admettait que les risques de bombardement étaient sérieux. Aussi, une tâche qui apparaissait comme essentielle et urgente était-elle la mise à l'abri, autant que faire se pouvait, de la collection de clichés. Cela posait de sérieux problèmes. À peu près 20 000 spectroliogrammes 13-18 contenus dans des boîtes en bois d'environ 50 clichés, plus l'impressionnante collection des clichés de photosphère solaire de Janssen. Il s'agissait d'épreuves sur collodion, format 40-40, sur glace de 6 mm d'épaisseur et contenu dans d'énormes boîtes en bois d'une quinzaine de clichés. Tout cela était réparti entre les communs et le château neuf. Un autre problème s'y ajoutait. Certains de ces clichés commençaient à être envahis par des variétés de champignons. On avait déjà mis au point un procédé de traitement consistant à tremper les clichés dans un bain de sulfate complété par un lavage sommaire et un séchage. Nous envisageâmes donc d'entreposer ces clichés dans les caves des communs après les avoir traités. Cela représentait une manipulation et un travail positivement énormes. Bien sûr, la guerre pour nous se devait d'être comme en 14, 4 ou 5 ans de tranchées, et dans cette optique, ce n'était pas complètement idiot. Toutes les possibilités restantes furent donc mobilisées pour cette tâche. La brave cocotte, attelée à son tombereau, transportait les caisses de clichés ou du château à notre vieux labo. Tous les bacs, tous les égouttoirs disponibles avaient été récupérés et nous sulfations, lavions, séchions à longueur de journée. Les grandes tables étaient encombrées d'égouttoirs, pleins de clichés, qui dès qu'ils étaient secs, étaient réétiquetés et remis en caisse. Les garçons de laboratoire descendaient toutes ces caisses dans des caves à peu près sèches, situé sous les communs. Nous nous donnions à cette tâche avec acharnement, persuadés que nous étions que Paris n'échapperait pas à de sévères bombardements. Et tout cela, bien sûr, devait s'avérer parfaitement inutile.